Et tout de suite, le rendez-vous.
Le sexe, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme.
Et c'est Laurent Fabius qui le dit. Juste une question d'équilibre ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de chute, d'anamorphose, de tapis, de danse, de péché, de queer et même de lingam. Avec Fanny de Chaillé qui met en scène Chute, une pièce pour un acteur-danseur avec un principe, danser sur un tapis anamorphose ou la confusion des regards, Manu Farine.
Burlesque, solitude, romantisme et angoisse de la montagne, servi sur un plateau fictif ou comment Fanny de Chaillé poursuit une œuvre chorégraphique travaillée par l'illusion théâtrale.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera la scénographe et plasticienne Nadia Lauro. Et 19h35, plateau queer avec Anne Dressen, commissaire de l'exposition La Passion selon Carole Rama. Rétrospective pour une artiste longtemps invisibilisée, extérieure à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, à 97 ans, déclarée héroïque, exotique, hérétique, Manu Farine.
Une œuvre viscérale placée sous la protection du péché, une œuvre qui tire la langue, montre son sexe, regarde le spectateur et fait sublime anomalie dans l'histoire de l'art.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Le Journal de la Culture, deuxième semaine pour Adrien Azeli, et l'on ouvre sur le son du jour.
Les symboles ont leur importance et la sensibilité des créateurs, des artistes, doit toujours être prise en compte. Il ne suffit pas de rester à une forme.
C'est pas un peu tard.
Et moi, je suis Premier ministre depuis un an et nous avons décidé, avec le Président de la République, de redonner, de continuer à donner des moyens, mais de garder, de préserver ces moyens pour la création, pour le spectacle vivant. C'était notamment après la énième crise des intermittents, dont je crois et j'espère nous sommes en train de sortir. C'est important, pas seulement parce que c'est la gauche qui gouverne, mais parce que c'est la France dans ce débat sur les droits d'auteur. C'est-à-dire, au fond, comment on préserve cette exception culturelle.
Bonsoir Adrien Azeli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, et il est vraiment du jour cette fois.
Il est vraiment du jour, et il est maison. C'est celui de Manuel Valls, qui était l'invité politique des matins de Marc Voinchet sur France Culture. Il a développé ce qu'il avait déclaré hier à propos du signe négatif envoyé par le gouvernement, l'erreur d'avoir baissé le budget de la culture de 6% pendant les deux premières années du mandat de François Hollande. Il a précisé qu'en 2015, le budget de la culture n'a pas subi de nouvelles baisses. Commentaire d'Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture sur France Info, il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Mais elle estime que l'austérité est trop forte pour les collectivités locales. Elle en veut pour preuve l'annulation de 150 festivals cette année.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Depuis mercredi dernier, la cité antique de Palmyre en Syrie est assiégée par l'organisation terroriste État islamique. Une situation qui inquiète beaucoup l'UNESCO et les archéologues. Les terroristes pourraient détruire cette œuvre inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Oui, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, lance un appel pour sauver Palmyre. Elle réclame que tous les efforts soient fournis pour préserver la cité qui compte des vestiges gréco-romains de 2000 ans. Une situation qui préoccupe Maurice Sartre. Il est professeur d'histoire ancienne à l'université de Tours.
Palmyre fait partie probablement des 10 ou 15 sites archéologiques les plus extraordinaires de la planète. Avec, je sais pas, des sites comme Angkor, comme Petra, comme Machu Picchu. C'est-à-dire des sites qui non seulement ont une importance historique majeure, mais qui en plus sont d'une beauté qui exerce une fascination sur les visiteurs. Je ne connais personne qui étant venu à Palmyre l'ait oublié, c'est impossible. Quand en plus on s'en prend au site qui est, je dirais, le plus symbolique et peut-être le site qui fait le plus l'unité des Syriens, on prive les Syriens de ce qui est l'une de leurs racines historiques les plus sûres, les plus ancrées. Mais en même temps, Palmyre, c'est pas simplement un site qui compte dans l'histoire de la Syrie et du peuple syrien. C'est vraiment notre patrimoine à tous. Je veux dire que si Daesh rentre dans Palmyre, c'est exactement comme si Daesh était demain dans la cour du Louvre. Et est-ce qu'on resterait les bras croisés si on avait Daesh dans la cour du Louvre? Car Palmyre, c'est culturellement, historiquement, de cette importance-là.
Pendant plusieurs siècles, Palmyre avait pourtant un peu disparu de la carte.
Le commerce s'était déplacé plus au nord de la Syrie et la ville était devenue une sorte de cul-de-sac avant le désert. Pendant le Moyen-Âge et jusqu'à sa redécouverte à la fin du XVIIe siècle, elle était même devenue une ville fantôme, ce qui explique que ses tours funéraires, ses arcs et ses colonnes soient tous restés en très bon état. Mais aujourd'hui, Palmyre a retrouvé son statut de passage. C'est une ville stratégique pour l'État islamique à 200 km de Damas et à 150 km de Homs.
On a quand même la preuve que Daesh veut s'en prendre absolument à tout ce qui peut symboliser à ses yeux l'Occident. Et je dirais que dans le cas de Palmyre, c'est encore plus manifeste parce que la ville telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est vraiment la ville romaine. Donc pour eux, idéologiquement, c'est la ville de l'occupant. Et d'autre part, Palmyre recèle encore des trésors inestimable, parce qu'on est bien loin d'avoir tout fouillé à Palmyre. Il y a encore des dizaines et des dizaines d'hectares à fouiller, et donc ils savent très bien qu'ils pourront faire un bénéfice énorme en fouillant les tombes qui n'ont pas été encore, et en détruisant et en vendant, en faisant passer par la Turquie, par l'Iran ou je ne sais où, les trésors archéologiques qu'ils puiseront.
Le directeur des antiquités syriennes a mis les pièces du musée de Palmyre en sécurité.
Oui, Mamoun Abdelkarim a fait vider le musée de Palmyre, mais il est impossible de protéger les monuments après l'incendie des bibliothèques et le saccage du musée de Mossoul. Maurice Sartre nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre idéologique, évidemment, mais bel et bien d'un trafic.
Parce qu'en réalité, par ailleurs, ils organisent le trafic d'antiquités, ils vendent eux-mêmes les antiquités les plus marquantes, ils nous montrent ce qu'ils détruisent, mais souvent c'est des moulages en plâtre et ils ont vendu les originaux quand ils le pouvaient. Ils donnent des concessions de fouilles pour des dizaines de milliers de dollars pour que les gens pillent les sites. Et je vous rappelle que Daesh a empoché, on estime, environ 150 millions de dollars l'année dernière du trafic des antiquités. Donc ne les prenons pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas des petits saints, ce sont des truands, mais qui en réalité ne visent qu'un objectif, faire du fric.
Maurice Sartre, l'armée syrienne se bat actuellement avec les djihadistes. Même si elle a réussi à leur faire quitter la ville, ils se trouvent toujours à un seul kilomètre des monuments historiques. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la bataille de Palmyre a fait au moins 370 morts chez les soldats et les combattants de l'État islamique. Ce bilan inclut aussi 62 civils dont la plupart a été exécutée par l'État islamique.
Et tout de suite, on passe au bref, Adrien.
La danseuse étoile Aurélie Dupont quitte ce soir l'Opéra de Paris à 42 ans, âge de la retraite pour les danseurs de ballet. Mais elle va rester à l'Opéra en tant que maître de ballet. Ce soir, c'est sa dernière apparition dans l'histoire de Manon de Kenneth Macmillan qui sera diffusée en direct dans 350 cinémas en Europe. France 3 diffusera la captation de la soirée par Cédric Clapiche le 30 mai prochain.
5 titres en lice pour le Goncourt de la biographie. C'est parti pour la liste.
L'Académie Goncourt a sélectionné Jean-Christophe Attias pour Moïse Fragile, François Chalin pour Un Corps Busier. Jean-Noël Liot pour Elsa Triolet et Lily Brick, les Sœurs Insoumises.
4.
Tatiana de René pour Manderley Forever.
Continuez.
Et Tiffaine Samoyo, la 5e, pour son Roland Barthes. Le lauréat succédera à Jean Lebrun pour Notre Chanel. Réponse le 2 juin.
La Villa Pablo Picasso est en vente.
C'est en tout cas le projet de Marina Picasso, la petite fille du peintre héritière de La Californie, la somptueuse villa atelier située à Cannes. Elle compte utiliser les quelques 150 millions d'euros pour développer des projets humanitaires.
Et la dernière, puisqu'il en faut une.
Une histoire d'amour, une histoire mignonne et un peu chauvine aussi. C'est l'application Babbel qui propose en fait l'apprentissage de langue en ligne et qui a demandé à 14 000 utilisateurs quel était l'accent qu'ils trouvaient le plus sexy. Alors, le français arrive de loin en tête du classement devant l'italien et l'espagnol. Babbel explique que le français est connu pour être la langue des romans d'amour, comme Madame Bovary ou Belle du Seigneur. 37%.
On n'est pas un cliché près. Hein,
ouais, donc un cliché près. 37% des étrangers disent même ne pas pouvoir résister à l'accent d'un français qui essaye de parler une autre langue. Alors, si comme moi, vous avez peur d'être ridicule avec vos éléments d'italien ou votre anglais un peu imparfait, en fait, ne soyez pas gêné, vous avez plus d'une chance sur toi d'être irrésistible malgré vous. Et enfin, je termine par le chiffre le plus mignon, 91% des 14 000 interrogés se disent prêts à apprendre une langue par amour.
Bien, c'est parfait tout ça, Adrien. On se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités? Fanny Chaillet, non, elle passe son tour. Anne Dressen?
Non, je suis très contente que la biographie de Barthes par Samoyo...
Elle n'a pas encore gagné, enfin, hein, Tiffaine Samoyo.
Non, mais que ça soit...
C'est un très beau travail, ouais.
C'est vraiment une traductrice aussi hors pair, pour le coup.
Le rendez-vous C'est sur France Culture.
Plateau escarpé avec vous, Fanny de Chaillet, chorégraphe, performeuse, metteuse en scène. Vous avez notamment créé un duo musical avec le comédien Grégoire Mont-Saint-Jean, co-signé une pièce avec le plasticien Philippe Ramette, travaillé avec la scénographe Nadia Leroux. Et c'est d'ailleurs avec elle que vous signez Chute sans eux, votre dernière pièce programmée à partir de jeudi au Centre National de la Danse à Pantin, dans le cadre des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Rapide inspection des lieux. Au sol, un tapis type tapis persan qui occupe la totalité ou la quasi-totalité du plateau. Le tapis est particulier, avec illusion d'optique plus ou moins empruntée à la technique picturale de l'anamorphose, Manu Farine.
Qui veut dire que tout dépend du point de vue. Pour le spectateur, le tapis a l'air tridimensionnel avec des effets de plis, des reliefs, des accidents, des petites collines. Mais pour le danseur, en l'occurrence ici l'acteur Grégoire Mont-Saint-Jean, le plateau est parfaitement plane et tout le jeu consiste pour lui à évaluer sur un plateau qui n'existe pas, c'est-à-dire le plateau accidenté que voit le spectateur. Donc il entre sur ce plateau, il essaie, il marche, il chute, il enjambe, il stationne parfois, il trébuche, il danse même de temps en temps. À quel moment du processus, du projet même, l'idée de ce tapis anamorphose, qui est une sorte de partenaire de jeu conçu avec la scénographe, s'est imposée, Fanny?
Dès le départ en fait, c'est-à-dire qu'il est presque à l'origine du projet. Nadia avait déjà fabriqué une anamorphose comme ça que j'avais vue. Et puis quand j'ai vu cette anamorphose, je me suis dit, ah voilà, j'avais l'envie de faire un projet sur la chute depuis longtemps, mais pour moi vraiment, il était, j'ai pas pu travailler sans en fait. C'est-à-dire que même bon, j'ai vu Grégoire un peu en amont, etc., pour regarder des films, discuter, travailler, mais on a vraiment travaillé dès le départ avec l'objet, avec cet objet en fait, qui est devenu un partenaire de jeu pour Grégoire en fait. Et ça a été la même chose pour le son réalisé par Manuel Coursin et pour la lumière fabriqué par Manuel Higer. C'est-à-dire que pour moi, il fallait vraiment faire une pièce comme un paysage. C'est-à-dire qu'un paysage, c'est un espace concret, mais qui est constitué de lumière, de son. Voilà, donc on a tous travaillé ensemble. C'est-à-dire que chorégraphiquement, rien ne pouvait se passer sans et la lumière, et le son, et l'espace. Tout était fait ensemble.
Quels étaient les films que vous avez dû voir avant avec l'acteur, danseur?
Beaucoup de films de Buster Keaton.
Ah, de burlesque, ouais.
Ouais, parce que en fait, pour moi, c'était ça. Il s'agissait de travailler sur cette question-là. Mais comme vous le dites dans la présentation, c'est pas tant la figure burlesque pour le burlesque en tant que tel qui m'intéresse. C'est plutôt comme une figure romantique et notamment chez Keaton, en tous les cas, ce qui m'intéressait, c'était ce rapport d'homme seul dans des grands espaces. C'est vraiment un Américain en ce sens, Keaton. Il évolue toujours dans des espaces démesurés, ou en tous les cas, la plupart du temps, contrairement à Chaplin, par exemple, qui peut être dans des espaces plus clos, etc. Et du coup, vraiment, j'avais envie de confronter ces figures-là, silencieuses, parce que la pièce s'appelle Chute, elle a pour le coup un double
Chute
sens.
Chute sans eux.
Ouais, Chute sans eux, mais voilà, on peut entendre effectivement la chute, mais je voulais vraiment convoquer ces figures comme des figures romantiques, en fait. Se dire que le rire que déclenchent ces hommes-là, il vient du fait qu'ils sont légèrement décalés par rapport au monde dans lequel ils évoluent. Et effectivement, le rapport d'échelle fait que, c'est...
Un homme face à son environnement.
Ouais.
Pour quelle raison fallait-il travailler sur la chute à ce moment de votre parcours? Vous disiez justement, au début, je voulais travailler sur la chute. Quelle était...
Alors en fait, au départ, ce n'était pas travailler sur la chute, c'était plutôt travailler sur le silence, figurez-vous. Je venais de faire une pièce qui s'appelait Le Groupe, dans laquelle on a beaucoup parlé, à partir d'un texte de Hugo von Hofmannsthal, qui s'appelle La lettre de Lord Chandos. Et j'avais envie de faire son pendant, solitaire et silencieux. Donc au départ, c'était vraiment le silence qui m'intéressait. Et puis ces figures silencieuses sont des figures qui travaillent... Enfin, cette question-là, de la chute, en tous les cas du déséquilibre. Donc c'est venu plutôt par le silence, bizarrement.
Et quelle était l'anamorphose précédente que vous aviez vue de Nadia Leroux?
C'était pour une pièce d'Emmanuel Huyn qui s'appelait Augure, qu'elle avait fait il y a quelques années en fait. Voilà.
Qui consistait en quoi cette anamorphose?
C'était comme un tapis également, mais fait de motifs en fait. Et il y avait des effets de relief.
Voilà. Quelque chose qu'elle a décliné ici aussi.
Ouais.
Manu.
On retrouve ici, donc, puisque la pièce repose sur un jeu de trompe-l'œil, c'est-à-dire que trouver l'équilibre au sein du déséquilibre, c'est ce que nous voyons, spectateurs, alors qu'en fait, le danseur, lui, fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il trouve le déséquilibre au sein de l'équilibre, d'une certaine manière. Quelle a été la principale difficulté, justement, physique pour Grégoire Mont-Saint-Jean à pratiquer ce tapis?
Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que lui, il est parfaitement à plat, Et il n'a pas du tout le regard que vous avez dans la salle. C'est-à-dire que vous voyez, votre œil vous ment pendant tout le spectacle.
En fait. Oui, nous, on voit des collines, on voit accidents, des gouffres.
Et lui est parfaitement à plat sur un motif c'est-à-dire que lui, quand on est sur le tapis, on n'a pas du tout la sensation. Donc il fallait trouver des repères dans l'espace. En ce sens, c'est très écrit et très chorégraphié parce qu'il a des repères qui ne sont pas du tout ceux que vous pouvez voir. Donc quand je lui dis monte en haut de la montagne, lui, à plat, il voit pas la montagne. Donc il faut juste qu'il repère dans le motif l'endroit de du sommet de la montagne. Enfin, la montagne, c'est un peu exagéré. C'est des volumes.
Collines.
Voilà, des collines. Mais du coup, c'était plutôt ça la difficulté, en fait. C'est d'être suffisamment précis. Déjà pour l'espace, simplement, comme ça. Et puis après aussi pour le mouvement. C'est-à-dire que quand il monte la colline, il est parfaitement à plat, mais il doit jouer le fait qu'il la monte ou qu'il la descend. Donc voilà, c'était plus un travail, comme ça qu'il fallait fabriquer.
Andressen, commissaire d'exposition, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces propos autour d'une pièce sur l'illusion du regard, en fait ?
Ce qui m'intéresse beaucoup et ce que j'ai très hâte de voir, c'est l'utilisation de ce tapis, en fait, et de ce paysage mental. Et ça me fait aussi penser au tableau de Holbein et à cette en fait, présence d'une abstraction dans la peinture du XVIIe. Et d'ailleurs, Holbein avait aussi lui-même beaucoup travaillé les effets d'optique, les illusions. Et voilà, cette utilisation-là, et j'adore le travail de Nadia Lauro depuis longtemps, et le tien par ailleurs, donc je suis ravie d'être là.
C'est assez intéressant cette référence à un tableau, justement, puisque à l'origine même de cette pièce, je crois qu'il y a un tableau de...
Ouais, de Gaspard David Friedrich. Bon, c'est souvent une référence pour moi, ce tableau, donc voilà, c'est pas...
Voyageur au-dessus de la mer de nuages.
Oui, vous voyez, c'est...
18.
Voilà, il est de dos, en haut d'un promontoire. C'est très connu, c'est presque dans toutes les salles d'attente de médecins, non ?
Oui, mais pour quelle raison, ce tableau-là ?
Ben, je sais pas, c'est un tableau que j'aime beaucoup depuis très longtemps, et pour le coup, là, il était très... très en adéquation avec ce que j'avais envie de travailler, c'est-à-dire que non seulement on voit c'est la tragédie du paysage un peu, c'est-à-dire que il est là et en même temps il est très en haut, mais il est quand même tout petit par rapport à ce qui l'entoure, et puis il est face au vide, donc tout est possible, quoi. Il peut rester là, il peut décider de s'élancer, il peut, voilà.
Manu.
Alors vous regardez ce tableau, Fanny Tchaillé, pour Nadia Lauro, donc la scénographe. Ce tapis-là, c'est un tapis qui regarde aussi Shining.
Oui.
Kubrick, en particulier, donc le tapis orange marron
de l'hôtel,
sur lequel roule le petit garçon en tricycle, un tapis qui menace, donc, et de la menace, il y en a pour vous aussi, mais qui passerait par l'image de la montagne. Hein. De quel ordre serait cette menace, Fanny Tchaillé ?
Oui, ça c'était une inspiration vraiment au tout début, en fait, parce que je viens d'être nommée artiste associée d'une scène nationale à Chambéry. Je déteste la montagne.
Ça va être vraiment difficile.
Voilà, ça me rend vraiment, ça m'angoisse énormément. Donc, quand je suis arrivée là, sur ce plateau de 1000 places, je crois, une salle énorme, entourée de montagnes, je me suis dit, ouf, ça va être dur. Et j'ai eu l'idée de chute un peu comme ça, en fait, en me disant, je vais me taire et puis je vais penser à un truc pour un mec tout seul. Donc, voilà, c'est vraiment, après, ce qui m'intéresse c'est le tapis persan, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi une référence au théâtre, le tapis persan. C'est aussi un objet bourgeois, parfaitement confortable, qu'on met dans des maisons pour être bien, pour être un peu. Et là, j'aime bien ce qu'elle a opéré, Nadia, avec cette figure-là. C'est-à-dire qu'on a ce tapis-là qui est soi-disant pour être à l'aise et confortable. Et en fait, elle en fait un objet de tous les. De tous les possibles et de
tous les dangers.
Ouais, il y a comme elle dit un truc super, elle dit qu'il y a il y a quelque chose sous le tapis, quoi. Voilà.
Il y a l'image dans le tapis, et puis effectivement, et ouais. Il peut y avoir.
Ah, de toute façon, c'est une variation sur l'image dans le tapis, ouais. Véritablement. Ouais. Vous avez commencé par une formation d'esthétique à la Sorbonne. À quel moment vous rencontrez la danse, Fanny de Chaillé ?
Je la rencontre tôt parce qu'en fait j'ai fait de la danse comme beaucoup de petites filles.
Ouais. Donc voilà. Formation classique.
Ouais, bien sûr. À l'époque, on n'avait pas le choix.
Quand même, il y avait d'autres choses possibles.
Eh ben, à l'époque, oui, il y avait du modern jazz.
Ouais.
Ah oui.
Mais j'ai non.
Non. Plutôt le tutu que.
Ouais, j'étais plutôt tutu
et. Les Champs-Élysées.
Ouais. Et donc voilà, et puis donc j'allais voir beaucoup, j'étais une grande spectatrice de spectacles de danse, mais effectivement j'ai plutôt fait de l'esthétique et de la philo. Et je crois que c'est Daniel Larieux, en fait, figurez-vous, qui m'a remis le prix à l'étrier, puisque je suis cavalière aussi.
Vraiment, la femme de tous les possibles.
Non, en fait, je l'ai rencontrée, voilà, parce que je cherchais un stage, figurez-vous.
Daniel Larieux, donc grande figure de la danse des années 80.
Voilà, qui dirigeait à l'époque le centre chorégraphique de Tours, et je cherchais un stage, puisqu'en esthétique, on essayait de vous trouver des stages pour que vous trouviez quand même un métier un peu sérieux. Et je trouvais pas ce stage, et donc, je l'ai appelé en lui demandant si je pouvais faire ce stage au centre chorégraphique de Tours, puisque je vivais là-bas à l'époque, il m'a dit oui, et voilà, j'ai commencé à le rencontrer, à travailler avec lui, à
comme
devenir
assistante.
Son assistante, ouais, et puis à danser pour lui.
Et à danser pour lui par la suite. D'abord, en tant qu'assistante, qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés, qui ensuite a pu vous servir aujourd'hui dans votre parcours de metteuse en scène?
Alors, moi, j'adore être assistante, donc je continue à l'être. Enfin, je l'ai été notamment pour Emmanuel Wynne, que j'ai cité tout à l'heure, mais pour Alain Buffard aussi, énormément. C'est quelque chose que je continue à faire si je... J'ai de moins en moins le temps, malheureusement, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que non seulement je crois que je fais de l'art parce que j'aime les artistes, donc du coup, on est vraiment là-dedans, au travail avec un artiste. Et donc, c'est une façon de se confronter à un point de vue qui n'est pas tout à fait le sien, donc qui vous décentre à la fois et qui en même temps vous renforce en tant qu'artiste. C'est-à-dire que souvent, par ces expériences-là, j'avance dans mon propre travail. Alors évidemment, hein, s'il s'agit de l'assistana, c'est pas servir des cafés quoi à quelqu'un, c'est vraiment travailler avec lui, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre du décentrage et en même temps qui vous renforce absolument sur les choix que vous faites, pourquoi vous travaillez comme ça, pourquoi vous ne faites pas les choix que lui fait ou elle fait, etc.
Et nous ?
Alors Daniel Larieux, c'est une génération qui est un petit peu plus ancienne que la vôtre. Vous avez mis en scène une autre génération, même littéralement, en 2003. C'était pour une pièce en forme de défilé qui s'appelait Underwear pour une politique du défilé, où vous faisiez, en l'occurrence, défiler le danseur Jérôme Andrieux, les danseurs chorégraphes Boris Charmatz, Christian Rizzo, Mathieu Dezen, Rachid Ouramdane, au fond... toute la génération, enfin une grosse partie de la génération des années 90-2000 qu'on a associée à l'idée de la non-danse ou de la danse conceptuelle française. Comment vous, qui veniez du coup de la danse d'auteur des années 80, vous regardiez cette danse-là et cette génération-là?
En fait, c'était la danse qui m'intéressait beaucoup. C'est celle que je découvrais à l'époque, grâce à Daniel Larieux d'ailleurs, qui avait un festival à Tours incroyable, où je voyais tout en fait. Toutes les œuvres de ces gens-là, je pense que c'est ces gens-là qui m'ont donné envie de faire des pièces, très vite en fait. Après, sur Underwear, bon, c'est une pièce que je reconnais pas tellement aujourd'hui. Elle me ressemble pas beaucoup, en fait, cette pièce.
Pour quelle
raison ? Elle était un peu maligne, entre guillemets. Ça veut pas dire que je suis pas maligne.
Vous êtes très maligne, pourtant.
Non, mais il y avait un côté un peu... Elle était un peu... vindicatif. En fait, je faisais une pièce sur la mode et j'avais pas les moyens de faire une pièce avec 10 interprètes. Et à partir du moment où j'ai fait ce casting-là, tout le monde m'a donné les moyens de faire cette pièce. En fait, vous voyez, donc, en ce sens, elle était maligne et je la trouve. Après, ça, elle est pas inintéressante. Hein. Quand je la regarde aujourd'hui, c'est juste pas tellement une de mes pièces. En fait, elle était plus maligne qu'intéressante, je crois.
C'est Daniel Larieux qui vous met sur le plateau, d'abord comme assistante, mais ensuite véritablement comme interprète. Quelle partition la première fois sur un plateau chez Daniel Larieux? Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, je fumais une cigarette et je faisais un trio avec trois garçons et à la fin, ce même trio revenait avec à ma place un squelette. Vous voyez ce que
super intéressant en effet. Bah ouais, c'est pas mal.
Ça s'appelait Sénissas.
Ça veut vraiment dire quelque chose.
Ouais.
Comment vous avez interprété ça?
J'ai arrêté la cigarette.
Je peux imaginer.
Non, mais il y a trois semaines seulement. Pas d'interprétation.
Et ensuite, à quel moment vous vous êtes autorisé un parcours de metteuse en scène? D'auteur, en fait.
Oui, parce que pour moi, la frontière est émouvante. Je travaillais déjà, pendant que je travaillais avec Daniel, je faisais déjà des pièces qui étaient plutôt des, on va dire, qu'on se qualifierait comme des performances aujourd'hui, ou même j'ai réalisé quelques objets d'art, je dois dire, en dur, qui étaient possiblement exposables, mais très vite, il s'est agi pour moi d'arrêter de fabriquer des objets pour ne faire plus que des performances, ou en tous les cas d'être dans un espace-temps qui était un, pas celui de, j'ai pas envie de construire de monuments, en fait. J'ai envie de faire, entre guillemets, une œuvre à l'échelle de ma vie. Donc, quelque chose plutôt qui est au mieux un bon souvenir dans la tête des gens, au pire. Voilà. Mais ça a été une vraie détermination à un moment donné de dire non, je ne veux pas faire un objet de plus pour une galerie ou un musée. J'ai envie de faire une pièce qui serait à l'échelle de ma vie, donc dans un rapport, voilà.
Andressen, vous êtes spectatrice de danse. J'ai eu l'impression tout à l'heure que vous connaissiez le travail de Nadia Lauro et Fanny Tchaïdi.
Oui, j'aime beaucoup toute cette...
cette mouvance.
Cette mouvance
des années 90-2000, Jérôme danse. Bell, Emmanuel Wynne, Boris Charmatz.
Oui, complètement. Yves Noël Jeunot,
du théâtre.
Je les avais d'ailleurs interviewé sur leur rapport à la musique et au clip il y a quelques années.
Quand vous avez fait une exposition musicale de la ville de Paris.
Oui, ouais, Playback. Ils sont tous dans le catalogue.
C'est un peu votre défilé à vous.
Exactement, exactement.
Manou.
Ces petites pièces, Fanny de Chaillet, dont vous parliez là à l'instant, qui étaient donc à l'échelle de votre vie, j'imagine que vous faisiez aussi référence, par exemple, à Carao Courte, hein, une petite pièce de 96, un petit film de 4 minutes 30, qui était interprété par vous, par Mathieu Dose, filmé par le plasticien Aurélien Froment,
et oui,
monté par Rachid Oranman,
le chorégraphe.
Une équipe, pardon. Voilà. De quoi s'agissait-il exactement? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place avec ces petites formes-là?
En fait, à l'époque, j'étais étudiante en esthétique, comme vous le disiez tout à l'heure, et je travaillais sur la poésie sonore, et notamment sur un monsieur qui s'appelait Bernard Heitzig, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc j'ai une grande fascination pour les poètes sonores, et évidemment pour Schwitters, qui est, on peut dire à la base avec cette oursonate, comme le précurseur de toute cette histoire. Et c'était la grande vague du karaoké, enfin en tous les cas à Tours en province. Je sais pas, peut-être ça. Je crois qu'il y a des gens qui continuent à y aller, mais
et à du Paris, coup je on me disais, aussi, mais alors
pour faire entendre cette œuvre de Schwitters, peut-être que si on lui donne cette forme-là du karaoké, elle va être possiblement entendable un peu différemment. C'était un peu une blague à la base, mais je me disais, voilà, donc j'ai fait effectivement un enregistrement en version karaoké de l'oursonate de Schwitters, où vraiment on peut faire l'oursonate complètement devant son micro et se faire toute l'oursonate de Schwitters.
Alors, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici, c'est un peu étrange ce que vous avez demandé, voici ce qu'on a trouvé.
Écoute ce que je te dis, nom de Dieu. Fais pas l'idiote, c'est capital. Ne dis pas le contraire, je te l'avais dit, impossible que ça marche. Je savais que tu reviendrais. Un peu de sérieux. Tu ne peux pas te passer de moi. Je te l'ai dit 100 000 fois. Tu ne pourras jamais. Je sais à quoi tu penses. Moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. D'accord. Mais ça explique justement que je savais que tu reviendrais demander pardon. Dis pas non. À quoi ça rime? Mais si, Charlotte, puisque je t'aime, je vais forcer de m'aimer.
Alors, vous nous aviez demandé n'importe quoi de Jean-Luc Godard. On a trouvé Charlotte et son juste. C'est Jean-Luc Godard, dans ce film-là, en 74. C'est pas lui qu'on voit à l'écran. On voit Jean-Paul Belmondo. Mais c'est la voix de Jean-Luc Godard qui double Jean-Paul Belmondo. C'est assez retors. Pourquoi n'importe quoi de Jean-Luc Godard?
J'avais pas dit n'importe quoi de Godard. J'avais dit n'importe quoi pourvu que ça soit la voix de Godard.
Ah, bon, bah, d'accord.
Voilà. Bah, c'était juste parce que c'est une voix qui me rassure, figurez-vous. Et c'est une voix que j'écoute régulièrement. Parce qu'elle me fait du bien. Et j'ai quelque chose comme ça avec la voix, c'est-à-dire que je peux écouter des heures des gens sans les écouter, enfin en tous les cas sans prendre en compte ce qu'ils me racontent, juste pour écouter, avoir le plaisir d'écouter leur voix.
Et qu'est-ce que vous écoutez de Jean-Luc Godard, même si vous ne l'écoutez pas vraiment?
Ah mais j'écoute beaucoup d'entretiens de Godard et puis je regarde ses films et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup d'idées en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui donne envie de faire de l'art.
Le rendez-vous extérieur.
Eh bien, tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manou Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, eh bien, c'est la scénographe et plasticienne Nadia Lauro que vous avez rencontrée ce matin même, Manou.
On reste donc en famille, hein, plus ou moins, avec Nadia Lauro qui fréquente essentiellement les plateaux de danse. Elle se méfie d'ailleurs un petit peu du théâtre. Venue de l'architecture du paysage, elle a travaillé avec vous, donc Fanny de Chaillet, mais aussi avec Jennifer Lassé, Vera Montero, Benoît Lachambre, Latifa Labissi, Emmanuel Huyn. Elle est donc celle qui est à l'origine de ce tapis, de cette fiction anamorphique dont nous parlions à l'instant. Et je l'ai rencontrée ce matin au CND à Pantin, en préparatif de chute, c'est difficile à dire.
Questionnaire danse, Nadia Lauro, Manou Farine.
Premier souvenir de scène. Un duo, Instance, de Catherine Diverès et Bernardo Montet. 92, quelque chose comme ça. Je crois que c'est le premier spectacle qui m'a véritablement fait rentrer dans la scène, en tout cas le désir de la scène.
La danse ou le théâtre que vous associez à vos parents?
Mes parents n'ont pas du tout transmis une culture de la scène. Ce qui était proche de moi et d'ailleurs qui a généré vraiment, enfin en tout cas qui a nourri mon imaginaire et encore aujourd'hui, c'est plutôt des illustrateurs. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est l'illustrateur, les gravures de Gustave Doré, qui était beaucoup dans les livres de contes de ma mère. Donc c'était pas les princesses blondes, c'est plutôt les princesses toutes bouffies, toutes rondelettes, beaucoup de détails dans le paysage. Et plus tardivement, c'est Birdsley, qui est un illustrateur qui a beaucoup illustré les ouvrages de Oscar Wilde, Salomé. Donc c'est vraiment période symboliste. Mais avant ça, c'est Edouard Goret. années 30. C'est un dessin au trait, ça a l'air de rien, et puis voilà, c'est très grinçant. Puis à un moment donné, ça dérape totalement.
Première scénographie signée.
C'est Poesia e Salvageria, Vera Montero, 1900... J'ai l'air d'avoir 600 ans, mais 1998. Quelqu'un qui a comme médium privilégié, ou en tout cas, on va dire presque principal, le corps et le mouvement, mais qui se saisit d'autres possibilités, qui peuvent être la voix ou le texte, en fonction des besoins du projet. Comme j'avais un peu une réticence pour la scène, j'avais beaucoup de questions et de doutes sur la question du décor, donc le décor comme une chose qui contextualiserait de façon illustrative un propos. J'étais beaucoup plus intéressée par les questions d'environnement, donc ça veut dire d'architecture plutôt immersive, qui invite le spectateur comme participant et qui génère des manières de voir et d'être ensemble spécifiques. Et donc avec cette première pièce, Poesia Salvageria, Le spectateur était vraiment en quadrifrontal, on l'avait mis vraiment tout autour, donc il y avait vraiment déjà une dimension immersive.
Un scénographe ou une scénographe qui a pu fonctionner comme modèle ou comme référence pour vous ?
Par rapport à ce que je viens de dire, j'aurais presque pas envie de citer un scénographe. J'aurais envie vraiment de citer quelqu'un qui m'a marqué beaucoup, qui s'appelle Alan Capro, qui a défini, qui a mis en place cette question de l'environnement et du happening, et qui disait d'ailleurs qu'un happening, c'était un environnement exalté.
Le chorégraphe ou la chorégraphe qui vous a mis en danger.
C'est vrai qu'avec Fanny Tchaillet, on était proches de discussions dans les modalités de travail sur ce projet. Et puis c'est vrai que quand elle m'a invitée à travailler avec elle, elle n'avait jamais travaillé avec de scénographe. Et puis moi aussi, je trouvais ça assez étonnant parce que par rapport à ce que je connaissais de son travail, je me disais, oh là là, j'ai un rapport beaucoup plus onirique en tout cas, et d'images et de convocation d'images que son travail qui était beaucoup plus... sur une forme de jeu ou analytique des constructions, tout ça. Donc c'est pour ça qu'avec notre première collaboration qui s'appelle « Je suis un metteur en scène japonais », du coup j'ai imaginé une sorte de scène qui fonctionnerait comme une maquette. Et du coup c'est en fait une sorte d'origami géante, donc évidemment très connectée au bunraku, ou en tout cas à l'art japonais, en carton, avec toutes les languettes, tous les détails de packaging, incrusté de pop-up, qui transforme le paysage scénique au fil de la pièce. Comme c'est très abstrait, les images construites peuvent se déconstruire et se renouveler au fil de la pièce. Il n'y a pas de phénomène d'absorption de l'environnement visuel. Voilà.
Une définition possible de votre métier ?
C'est plus un mode d'action, un mode de regard qu'un champ d'activité. C'est pour ça qu'elle est difficile à cerner, et aussi c'est pour ça que cette modalité peut se jouer dans tout un type d'espace, pas uniquement la scène. C'est que la scénographie, c'est pour moi en fait la dimension expérimentale de l'architecture, par rapport à l'échelle, par rapport au temps qui est très réduit, par rapport à la question du nomade et des solutions à trouver par rapport à un espace qui doit se déployer au maximum pour se replier au minimum.
Nadia Larro, merci.
Ah, c'est tout, hein ? Mais j'ai pas parlé de chute.
On en a parlé juste avant. Fanny Tchaillet, c'est Nadia Larro, c'est la première scénographe avec qui vous avez travaillé. Vous méfiez avant de la scénographie ?
Ah oui, oui. Même c'était, je voulais pas de scénographie, pas de lumière, pas de costume. J'avais très très peur de ça en fait.
Pour quelle raison ?
Eh ben parce que j'avais l'impression que ça allait enjoliver la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me disais...
Faire passer la pilule.
Non, mais ouais, souvent, enfin, j'ai vu beaucoup ça au théâtre ou dans la danse. C'est-à-dire que d'un coup, je vois bien que si on enlève un peu tout ça, il se passe plus grand-chose. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'était ça. Et il se trouve que j'adorais le travail de Nadia, mais à chaque fois, et on avait des grandes discussions, parce qu'on a quand même une culture art visuel très... Enfin, on est assez proche là-dessus. Et donc, on avait des grandes discussions, mais je me disais, mais quand je voyais tout ce qu'elle produisait et que j'aimais beaucoup, ouais. Je me disais, c'est très, très loin de moi. Effectivement, elle a raison de parler de jeux de déconstruction, etc. Enfin, je convoque pas des personnages. Elle, c'est quelqu'un, enfin, ce que je voyais d'elle, c'était vraiment des espaces effectivement oniriques, très, très forts. Et je me disais, mais est-ce que mon travail, il peut tenir là-dedans ou je sais pas quoi. Après, ce qui est génial, c'est que c'est parce qu'on discute et qu'évidemment qu'on trouve un endroit des possibles.
À nous.
Elle parlait justement de cette première pièce faite ensemble, hein, qui s'appelait « Je suis un metteur en scène japonais », où elle avait installé cette fameuse boîte en carton avec des pop-up intégrés. La pièce reprenait plus ou moins la structure du bunraku, hein, de l'art japonais de marionnette. Qu'est-ce que cette scène-là, celle du bunraku, vous permettait de travailler à ce moment-là ? C'est une pièce toute récente.
Oui, En fait, c'est une pièce qui parle, enfin, par l'intermédiaire excusez-moi. Non, ce que je veux dire, c'est que sur le metteur en scène japonais, ce qui m'intéressait, c'était de m'imaginer vraiment être un metteur en scène japonais. Donc, je suis partie de cette fiction totale en me disant, si j'étais un metteur en scène japonais, comment je ferais du théâtre aujourd'hui? Et j'ai lu des textes, je n'étais jamais allée au Japon à l'époque, hein, donc j'ai lu des textes sur le théâtre japonais en me disant, c'est quoi la différence entre le théâtre de chez nous et ce théâtre-là? Et il se trouve que plus je lisais des textes, plus je me disais, je suis pas très loin de ça, en fait, dans ce que je produis. Notamment, une pièce que je venais de faire qui s'appelait Gonzo Conférence, qui était une pièce sur le rock'n'roll. Dans le sens où le texte était séparé de l'action. Donc j'étais dans la salle parmi les spectateurs pendant que sur scène une danseuse évoluait. Et d'un coup, il fonctionne parfaitement comme ça. C'est-à-dire que sur scène, il y a ses manipulateurs et ses marionnettes. Et le texte est porté par un récitant qui est à l'extérieur du plateau. Les émotions sont portées par le musicien qui est à côté de ce récitant. Et tout est déconstruit comme ça. Et ce que j'aime dans ce théâtre-là, c'est que on n'a plus affaire à l'illusion que transporte le théâtre de chez nous. Et tout est donné à voir. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui fabrique le collage lui-même et qui fait la dernière image. Donc c'est en ce sens-là que je voulais travailler sur ce théâtre-là. Effectivement, Nadia, étant une grande fan de Bunraku, quand je lui parle de ça, elle en a vu beaucoup, elle, et elle décide de fabriquer cet espace incroyable, qui est un espace qui se... un peu foutu comme les espaces de Bunraku, hein, c'est-à-dire que c'est plusieurs plans comme ça, enfin, depuis j'en ai vu, hein, plusieurs plans comme ça qui s'étalent et qui à chaque fois se déconstruisent pour reconstruire un nouveau plan. Et donc elle a fabriqué comme ça un espace en carton qui fait que nous, on pouvait jouer, chaque scène pouvait se déployer grâce à son origami, en fait.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Anomalie avec vous, Anne Dressen, commissaire d'exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Vous êtes le commissaire en France, la commissaire en France d'une vaste rétrospective itinérante consacrée à Carole Rama. D'abord un mot sur cette artiste encore méconnue. Elle est italienne, née en 1918, toujours en vie. Son parcours atypique commence dans les années 30, se poursuit encore aujourd'hui au programme peinture, aquarelle surtout au départ, collage, vêtements, objets qui affrontent frontalement le sexe, la maladie, la folie, le fétichisme, le déchet, l'abjection, le voyeurisme, le plaisir, le désir, la guerre, l'animalité ou la mort, bref, tout. Qu'est-ce qu'une telle artiste représentait pour vous avant de plonger dans son œuvre ?
En fait, le jour où j'ai découvert son travail, et c'est grâce à une artiste, parce que je pense qu'on peut dire que Carole Rama, c'est une artiste d'artiste, et souvent c'est d'ailleurs eux qu'il faut écouter et qui ont vraiment l'œil et qui ont cette capacité à voir des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas vues pendant très longtemps.
Oui, parce que l'histoire de l'art l'a complètement ignorée. Quel était cet artiste qui vous a parlé de Carole Rama ?
C'est Léonore Antunes, une artiste qui habitait longtemps à Paris, qui est portugaise, qui vit maintenant à Berlin depuis plusieurs années. Donc c'est une exposition, enfin si on peut le dire, même s'il y avait pour le coup un rapport de scénographie. En fait, Léonore avait créé dans l'espace d'une foire à Cologne, il me semble, pour la galerie Bortolozzi. Donc en général, c'est pas un endroit où on peut découvrir un artiste, mais on n'a pas forcément vraiment une expérience d'une œuvre comme celle que j'avais eue, je pense que c'était en 2007. Donc elle avait choisi trois ou quatre œuvres de la période des caoutchoucs des années 70, qui sont ces magnifiques compositions à partir de chambres à air de vélo. Et elle avait recouvert le mur et le sol de liège, enfin de composition. Et c'était à la fois extrêmement subtil, mais très sensuel. Et ce dialogue avait opéré pour moi de manière magistrale. Et voilà, à partir de ce jour-là, j'ai pas cessé d'y penser. Et je suis ravie que finalement l'occasion se soit enfin réalisée et de donner à découvrir justement ce travail aujourd'hui.
Manu.
Ce que dit l'exposition et son parcours, entre autres choses, hein, c'est donc ce peu d'attention que Carole Rama aura portée au mouvement artistique, dont elle est contemporaine, et vu son âge, il y en a eu beaucoup. Mais la réciproque est vraie, c'est-à-dire que l'histoire de l'art, effectivement, l'a ignorée, ou l'aurait ignorée en tout cas jusque-là. Vous parlez vous-même de sublime anomalie. Quelle a été véritablement sa réception jusqu'ici? Est-ce que les choses ont bougé ces derniers temps? Et quand je parle de réception, je pense notamment à sa réception en Italie, chez elle, et y compris chez les féministes.
Alors, avant d'arriver aux féministes des années 70 en Italie, il faut, je pense, la replacer vraiment dans le contexte de l'Italie des années 30.
Là où elle commence,
véritablement. Là où elle commence, alors elle dit qu'elle a commencé à peindre à 15 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vérifier, et c'est tant mieux. Hein, je pense que justement l'aspect fictionnel est tout à fait intéressant aussi pour aborder et comprendre le travail de Rama.
C'est pas forcément biographique, on y reviendra justement.
Oui. Exactement, et je pense que même quand on dit qu'elle a été exclue, je me demande s'il faut pas aussi se demander dans quelle mesure elle s'est exclue. Enfin, je pense qu'il y a une stratégie, mais on pourra sûrement y revenir, une stratégie aussi un peu de camouflage qui peut expliquer qu'elle ait été aussi peu visible. Mais on peut comprendre dans la mesure où en 45, donc après avoir réalisé des séries complètement inouïes de liberté, mais aussi de violence, enfin donc avec des scènes extrêmement libre et à la fois torturé ou des scènes de
connotation sexuelle.
Très explicite qui donne vraiment à voir le sexe féminin du point de vue de la femme hein, c'est comme on pourrait dire que quelque part elle rend un visage à l'origine du monde. Il y a vraiment ces scènes très frontales de jambes ouvertes d'où des serpents sortent et regardent. Enfin, il y a ces jeux de regard, en fait. On est vraiment l'œil qui est tout le temps en train de fixer le regardeur, donc qui prend à partie aussi, qui peut pas laisser indifférent. Il y a des scènes aussi scatophiles, zoophiles. Donc tout ça dans les années 40, en pleine Italie fasciste, extrêmement patriarcale. Catholique. Donc en 45, elle se fait censurer. Ça a dû être effectivement
pour obscénité.
Pour obscénité.
On l'aura compris.
Pour obscénité, ça, on peut comprendre que le mot est évidemment dit tout de qui les a proférés. Donc les œuvres sont confisquées. On ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Et en tout cas, évidemment, on imagine un profond trauma, vraiment viscéral, vécu. En tant que telle, elle a, il y a deux occurrences en fait où elle traite de du mythe des parcs. Ces figures, ce trio de femmes censées figurer ou représenter le destin. Et c'est comme si elle avait vraiment décidé de son propre destin. Il y a cette liberté quand même complètement incroyable de décider de ne pas avoir de mari, de ne pas avoir d'enfant, de prôner la masturbation. Il y a une des trois œuvres à l'entrée de l'exposition qui s'appelle Masturbazione, qui est faite en 45. C'est tout un programme. C'est vraiment une manière aussi d'aborder le monde, sa sexualité, son rapport au désir, qui va complètement à l'encontre de ce qu'on attend d'une femme à l'époque.
De quel milieu vient-elle d'ailleurs? Premières aquarelles dans les années 30, de quel milieu vient-elle et quelles étaient ses références, même peut-être en art?
Alors, elle était d'une famille plutôt bourgeoise, enfin en tout cas aisée. Son père avait une fabrique de vélos, d'où les chambres à air, même si en même temps, elle n'était pas non plus obligée de les utiliser.
Non, mais il y a quand même une histoire familiale, un suicide de son père justement après la banqueroute de son usine de
voilà, en 42, effectivement. Donc il y a une histoire extrêmement chargée dont elle s'est jamais cachée. Enfin, on peut même dire qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup intégré, elle a intitulé beaucoup de ses premières aquarelles avec du nom de sa grand-mère qui était infirme, de sa mère qui était internée, de son père qui allait suicider, etc. Donc elle a, c'est un peu pour le coup. Je pense un peu dans le style de Louise Bourgeois, qui elle aussi a énormément cité, utilisé des éléments de sa biographie, mais je pense de la même manière pour aussi un peu déjouer ou C'est comme des faux semblants, des fausses pistes pour aussi qu'on la laisse tranquille, c'est-à-dire apparaître comme une hystérique, traumatisée par une enfance lourde, etc. Ça lui permet finalement de continuer à faire des œuvres extrêmement fortes et subversives, alors même qu'elle parle évidemment de vraies violences et de beaucoup plus collectives, beaucoup plus universelles.
Fanny Tchaillet, vous connaissez ce travail ?
Non, je ne le connaissais pas, mais on m'en a parlé il y a 2 jours, figurez-vous. Donc je
tombe bien.
Voilà, exactement, en bien. Et donc, je vais me ruer à cette exposition.
Quand vous avez regardé juste le catalogue, il y a 2 ou 3 images qui vous ont marqué, intéressé ?
Eh bien, il y en a beaucoup et je suis épatée par la différence des œuvres, en fait.
Ah oui ?
C'est-à-dire que c'est très... Voilà.
Ça va dans tous les sens, notamment abstraction, ouais. Figuration, Manou.
Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois vous dire.
Je peux imaginer.
Peut-être, Andressen, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure et vous disiez on va venir aux féministes sur la réception des féministes, parce que ça n'est pas si simple non plus la façon dont les féministes ont pu regarder le travail de Carole Rama et inversement, j'imagine.
Alors, c'est effectivement dans les deux sens. Carla Lonzi, qui est la féministe, enfin la référence dans le féminisme italien, qui était proche de Carla Accardi, avec qui elle avait fondé ce mouvement Rivolta Femminile, n'a, à ma connaissance, et je crois pour de vrai, jamais évoqué le travail de Carole Rama. De la même manière, Carole Rama ne fait pas partie des récentes publications qui tentent de rattraper l'histoire et qui compile le travail d'artistes femmes. On peut dire qu'elle est absente d'à peu près tous les ouvrages, de tous les grands courants qu'elle a pourtant traversés ou qu'elle a cités, ou en tout cas auxquels on peut penser devant son travail. Fanny disait qu'effectivement, elle avait l'impression comme ça d'un travail avec une amplitude assez étendue. C'est exactement ça, c'est-à-dire il y a vraiment cette impression au premier abord d'une hétérogénéité assez folle. Il y a Man Ray qui avait écrit un très beau poème qui parlait de Carole Rama, femme aux 7 visages, c'est vraiment ça. Mais encore une fois, je pense que elle a aussi trouvé. Donc, elle n'est pas pionnière. On peut pas dire Carole Rama a inventé ou est à l'origine de tel ou tel mouvement. Sinon, peut-être le queer, ou en tout cas, c'est comme si elle avait préfiguré un certain nombre de réflexions.
Qui est un terme que vous utilisez à la fois dans le catalogue et beaucoup dans l'exposition aussi, et qui évidemment apparemment est anachronique puisque vous
tout
lui attribuez.
Proto-queer, c'est comme si, mais j'aime beaucoup cette idée de
toute
façon
de entendre par là justement quand vous nommez une section
queer povera,
bah c'est en fait montrer que effectivement des similitudes ou des parallèles qu'on pourrait trouver entre les travaux en caoutchouc justement de Rama à partir des années 70 et l'arte povera. Encore une fois, elle n'a jamais fait partie de ce courant-là, elle n'a jamais été reconnue, et pourtant il y avait toute une partie de ce groupe à Turin. En fait, elle n'était pas du tout proche d'artistes, elle était vraiment proche de musiciens, de poètes, de scénographes, enfin de designers. Donc entre Sanguinetti, Molino, voilà, c'est comme si elle s'était aussi un peu méfiée du milieu de l'art en tant que telle. Donc elle est, et en même temps il y a cette extrême sensualité, on pense presque à son choix en fait du matériau même de caoutchouc, c'est un peu comme il y a quelque chose de à la fois sensuel et sexuel, enfin il y a vraiment cette idée de seconde peau. On pense aussi à l'usage que le SM a pu faire de ces matériaux, cette idée d'à la fois contraindre et révéler, le fait que elle conserve les rustines de ces chambres à air comme des cicatrices. Enfin, il y a vraiment cette grande tactilité.
Mais ça, on fait pas une artiste queer.
Alors, dans cet intérêt pour ces formes, et enfin pour cette matière qui est mutante. Enfin, il y a aussi cette idée. C'est un peu ces chambres à air, c'est quelque part un matériau qui est tout le temps en évolution. Enfin, il y a cette idée d'être à la fois qui est flasque, mais qui promet aussi l'érectilité. Donc il y a cette double dimension qui cohabite. Et il y a quand elle utilise les chambres à air en tant que telles, donc pas aplanies sur un tableau, il y a aussi cette grande similitude, il me semble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu comparer ou associer des aquarelles des années 40 avec ces tableaux de la fin. En fait, on se rend compte que les serpents qui éructaient comme ça des vagins de ces figures sont exactement, enfin, semblent préfigurer complètement ces chambres à air pendantes de la fin de sa carrière.
Écoute ce que je te dis, nom de Dieu.
C'est une voix qui me rassure, figurez-vous, et c'est une voix que j'écoute régulièrement parce qu'elle me fait du bien.
Et c'était à la fois extrêmement subtil, mais très sensuel. Et souvent, c'est d'ailleurs eux qu'il faut écouter.
Merci à nos invités. Fanny Tchaillé, Chute. C'est du 20 au 22 mai au Centre National de la Danse à Pantin à l'occasion des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Andressen, La Passion selon Carole Rama, est visible jusqu'au 12 juillet au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Je signale que le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Paris Musée. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers.
Quel était le souci avec mon passeport ?
Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus.
Alors, qui es-tu ?
Je ne sais plus.
Demain, une émission cinéma et thérapie avec Arnaud Desplechin et Sabine Guiziger. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssatou Endoy, Elsa Béranger, journal de la culture Adrien Azeli, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontani et Élise Leu, et à la réalisation Thomas Beau.
C'est un peu notre Catherine Deneuve, vous parlez aussi vite qu'elle. Tous les jours, c'est le Festival de Cannes avec vous. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.